On va aller ensemble dans un mot de prière avant d'aller dans la parole de Dieu, d'accord? Seigneur Jésus, tu es présent ici ce matin, nous croyons cela fermement par la foi. Pour celui qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour sentir, tu es manifestement présent. De toutes sortes de manières, par ton Esprit Saint, dans toute cette générosité, ce dévouement, cet amour qui est là, cet accueil qui est présent ici. Seigneur Jésus, on veut te demander maintenant de venir te manifester par ta parole. Que ton esprit vienne prendre ces quelques instants qu'on va passer dans tes saintes écritures pour nous parler de toi, Jésus. Seigneur, je confesse que la vie chrétienne est à la fois simple et profondément complexe. Et je suis conscient dans mon quotidien, Seigneur, que très souvent, c'est moi qui complique les choses. Mais en même temps, j'ai besoin de saisir davantage cette réalité de ta présence dans ma vie au quotidien. Comment, Seigneur, centrer mon foyer, ma vie personnelle, ma relation avec mon épouse, avec mes enfants, avec les amis, les collègues, sur toi, Seigneur Jésus, afin que cette vie qui est en toi soit vraiment puissante et présente en moi, Seigneur. Alors, je te prie de me remplir de ton esprit à ce moment présent, Seigneur, afin que tout ce que je vais communiquer soit vraiment conforme à ta parole, vienne nous éclairer, nous amener plus loin, Seigneur, dans cette marche avec toi, dans nos foyers. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Je vous invite à tourner avec nous dans Jean 15, s'il vous plaît. Ouvrez vos tablettes, iPhone, iPod, papier, tout ce que vous voulez, vos book. Dans Jean 15, on va écouter, je sais que vous m'entendez souvent dire ça, mais c'est vrai. C'est toujours vrai d'ailleurs, mais c'est particulièrement vrai là. C'est probablement un des passages les plus précieux pour moi dans toutes les Écritures, Jean 15. David voulait habiter dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu chaque jour de sa vie. Hier, j'étais dans la prière puis je disais, Seigneur, si je pouvais avoir Jean 15 dans mon cœur, chaque jour de ma vie, ce serait tout mon bonheur. Alors, on va écouter ensemble la parole de Dieu, Jean 15, versets 1 à 17.
Versets 1 à 17, édition Louis II. Jean, au chapitre 15, versets 1 à 17. Ah, je m'approche. C'est bon? Ah, OK. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Merci, Julie. Alors, Danny et puis l'équipe m'ont demandé d'adresser la question pratique. Qu'est-ce que ça veut dire bâtir un foyer centré sur l'Évangile de Jésus-Christ? Vous nous entendez chanter cette chanson-là depuis plusieurs années maintenant à l'Église de l'Espoir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire bâtir un foyer centré sur Jésus-Christ? Centré sur l'Évangile, je m'excuse. Et je voudrais dire quelque chose en commençant, parce que vous êtes dans toutes sortes de situations très, très, très différentes. Certains d'entre vous êtes célibataires, vous vivez en appartement, vous êtes seuls. D'autres, foyers monoparentaux. D'autres, votre conjoint, peut-être pas chrétien. D'autres, bien oui, vous êtes mariés avec un chrétien, tout ça. Des fois, vous êtes la seule personne chrétienne dans votre maison. D'autres fois, oups, c'est vous et un de vos enfants. Puis là, vous allez écouter tout ça, puis vous pourriez vous dire, oui, mais c'est pas quelque chose qui s'applique pour moi, c'est pas évident à vivre. Un foyer centré sur l'Évangile, ça demande qu'une personne, au moins, dans ce foyer-là, ait décidé de centrer sa vie personnelle sur Jésus-Christ. Parce que l'Évangile est tel que l'Évangile peut grandir. L'Évangile peut s'étendre. L'Évangile peut croître dans les contextes les moins hospitaliers. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le Seigneur Jésus nous a dit que c'est une puissance qui croît constamment. Et donc, on annonce l'Évangile, on vit centré sur l'Évangile. Vous n'avez pas besoin d'avoir un foyer où tout le monde dans la famille a décidé de suivre Jésus-Christ, d'accord? Alors simplement, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la réponse la plus évidente, la plus simple, et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans Jean 15, un foyer centré sur l'Évangile, c'est un foyer qui est centré sur une personne, Jésus-Christ. Sur une personne. Quand vous pensez, c'est quoi que ça veut dire? Premièrement, pensez à centrer ma vie, mon cœur, mon énergie, mes pensées sur une personne, Jésus-Christ. Parce que le passage commence comme ceci. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Cette image-là est super forte parce qu'elle nous dit qu'il n'y a pas de vie qui va venir ailleurs qu'en étant connecté au cep. Vous savez, c'est quoi une vigne? Tout part d'une base, d'un tronc. J'ai trois vignes chez moi dans ma cour. Elles sont immenses. La plus grande fait à peu près ça de largeur. J'exagère, ça environ de largeur, d'accord? Mais si vous fouillez en dessous des feuilles, puis vous allez voir, il y a un seul tronc, une seule base. Quand les feuilles me fatiguent, j'ai simplement à les sectionner, je les ramasse même pas. Je les coupe. Je coupe une tige au complet. Je lui donne quelques semaines, c'est fini, elle est morte. Parce qu'elle s'est détachée du cep. Un foyer centré sur l'Évangile, c'est un foyer qui est centré sur une personne, Jésus-Christ. Et parfois, vous pouvez avoir l'impression, en nous entendant constamment parler de Jésus-Christ, vous dites, oui, mais Dieu le Fils est celui qui nous a fait connaître parfaitement le Père. Ailleurs, dans l'Évangile de Jean, Jésus va dire de lui-même, par exemple, qu'il est le vrai temple. Pensez à ça un instant. Jésus va dire qu'il est le vrai temple. Jésus va dire qu'il est le pain qui donne la vie. Il est l'eau qui rassasie vraiment. Il est la manne qui descend du ciel. Alors Jésus est au centre. Jésus est au centre d'un foyer qui est centré sur l'Évangile de Jésus-Christ parce que c'est de lui que vient cette vie-là. Ce matin, je vais sortir des éléments, d'accord? Vous avez peut-être reçu des petites feuilles de notes, tout ça, vous pouvez suivre. Je vais sortir des éléments, mais pour être franc avec vous, plus je méditais sur le passage, plus je méditais sur le passage, plus je l'étudiais, plus je me disais, mais il y aurait 5-6 messages à voir dans ça. Alors, je veux vous donner un devoir pratique tout de suite pour commencer. Si cette année, vous désirez grandir, que vous soyez célibataire, marié, seul chrétien au foyer, une famille où tout le monde est chrétien, peu importe. Si vous désirez grandir en ayant un foyer de plus en plus centré sur l'Évangile, bien voici ce que je veux vous encourager à faire. prenez le temps de lire et donnez-vous des rendez-vous mensuels pour aller relire Jean 15. Revenez dans Jean 15. Prenez du temps pour lire et méditer. Retournez dans le passage. Dans toute l'histoire de l'Église, c'est un des passages qui a été le plus aimé par les chrétiens à travers toute l'histoire de l'Église. Jean 15. Donc, c'est concret. Ce matin, on sort plein de choses. Vous allez partir d'ici, vous allez dire, il y a tellement d'affaires, je ne sais pas comment tout intégrer ça, il y a beaucoup d'informations. Retournez là et laissez Christ vous parler encore une fois par son esprit. C'est bon? Pour méditer sur ce désir-là que vous avez dans votre cœur, de centrer votre foyer sur la personne de Jésus-Christ. Jésus est le cep, il est le centre. Et donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Puis cette phrase-là m'a toujours troublé, rassuré, béni. Il dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Un foyer qui est centré sur l'Évangile, c'est un foyer qui est bâti sur la grâce. Parce que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est vous voulez bâtir un foyer sur l'Évangile, vous voulez vivre une vie chrétienne abondante, vous voulez porter des fruits pour la gloire de Dieu, vous voulez me ressembler sans moi. Oubliez ça, vous n'êtes pas capable. Rien faire. Il n'y a aucun fruit évangélique, aucune vie divine qui va sortir de votre vie personnelle, de votre foyer, si vous n'êtes pas centré sur la personne de Jésus-Christ. Alors, c'est en même temps troublant, humiliant, puis rassurant. Parce que déjà, l'Évangile m'est rappelé ici. C'est quoi l'Évangile? On est sauvé par grâce. Mais ce que Jésus est en train de me dire ici, c'est regarde, essaie pas de prendre tout ça sur tes épaules, copain. Essaie pas de te dire que tu vas être un super Christian qui va marcher droit, puis tout va bien aller. Tu vas enseigner à tes enfants des petites recettes, puis bing, 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 pop, 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 ça va faire des petits chrétiens. Ils vont tous être consacrés. Yeah! Il n'y a pas de recette, mon ami. Il y a une personne, c'est Jésus-Christ. Sans moi, tu n'es pas capable d'y arriver. Fait que je te le dis tout de suite, tout ce que tu vas réussir à faire, ça va être pure grâce. Amen? Pure grâce. Vous vous lancez là-dedans? C'est un fardeau énorme sur vos épaules. Je viens de l'enlever. Sentez-le partir de vos épaules. Il n'est pas là, le fardeau. C'est par grâce. Parce que c'est par Jésus-Christ que ça va se faire. Vous souffrez d'un foyer qui n'est pas paisible comme vous aimeriez le voir. Vos enfants, vous leur parlez du Seigneur. Vous n'avez pas la réponse que vous voudriez. Les choses ne sont pas simples comme vous voudriez. Vous prenez ça sur vos épaules. C'est lourd à porter. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pure grâce. Décroche-le, le fardeau, va le déposer aux pieds du Seigneur. Tu es en train de prendre sur tes épaules des choses qu'il ne te demande pas de prendre, qu'il te demande de venir déposer là constamment. Un foyer centré sur l'Évangile, c'est un foyer qui est construit sur la grâce de Dieu. Parce que voyez-vous, plus on lit les Écritures, plus on apprend à connaître la parole de Dieu, plus on veut être comme Jésus, on veut lui ressembler, on veut suivre cette parole-là. On dit, plus tu lis, plus tu étudies, plus tu dis, mais c'est plein de sagesse. Si je pouvais juste comme vivre ça tous les jours, ça serait tellement génial. Et là, on a tendance à reprendre le fardeau sur nos épaules. Reprendre le fardeau sur nos épaules. Un foyer centré sur l'Évangile, c'est un foyer qui est construit sur la grâce de Dieu, qui repose sur sa grâce. C'est lui seul qui va le faire. Donc, ça pose la question quand même super importante. Où est Jésus dans ta vie personnelle? Où est Jésus dans ta vie personnelle? Parce que Jésus n'est pas un conseiller. Tu ne peux pas prendre un cours sur Parenting 101 avec Jésus. Puis là, tout va bien fonctionner. Couple 101 avec Jésus. Relation 101 avec Jésus. La première affaire que tu vas réaliser, c'est que tout ce qu'il te demande de faire, tu n'es pas capable de le faire. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a des chicanes dans ton foyer, tu as juste à aimer tout le temps, tout le temps. Tu as juste à être toujours comme, oui, merci, tch, oui, merci, tch, oui, merci, tch. Tes enfants sont insolents, aime-les. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Il faut vraiment être connecté à Jésus-Christ. Il faut être connecté au cep. Et donc, si à quelque part, dans votre quotidien, tout ça, vous êtes pris dans le tourbillon de la vie et il n'y a pas cet endroit-là où vous allez connecter constamment avec Jésus pour laisser sa vie se développer en vous, ça va être énormément difficile à vivre, d'accord? C'est un foyer qui est centré sur la personne de Jésus-Christ, qui réalise que c'est par pure grâce, c'est lui qui va le produire en nous. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, dans le passage ici, il y a deux éléments qui sont présents, qui sont plus concrets, plus pratiques, parce que Jésus, c'est cool, mais il est là. Talam, invisible. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Sa parole et la prière. Il y a quelques versets là-dedans qui m'ont troublé encore cette semaine lorsque j'étais en train d'étudier le passage, parce qu'ils sont tellement forts. Mais Jésus insiste sur l'idée que sa parole, ses commandements. Alors regardez avec moi le verset 3. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et donc, il est en train de parler de tout ce qui est transformé dans leur pensée, dans leur vision, dans leur compréhension, dans leur foi. Jésus leur a annoncé, à ce moment-là, il n'est même pas encore mort sur la croix, mais déjà cette œuvre de purification que la parole de Dieu, la parole de Jésus est en train de faire pour venir les conduire vers lui dans la foi, leur apprendre à marcher à sa suite, est déjà en train de s'opérer. Un petit peu plus loin, il va dire, « Si vous gardez mes commandements. » Et encore un peu plus loin, puis ça a été vraiment ma belle redécouverte cette semaine dans le passage. Au verset 15, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Bon, il parle aux apôtres ici. Un peu plus loin, il va dire que le Saint-Esprit va leur être donné par la suite. Le Saint-Esprit va les conduire pour saisir des choses. Et les Écritures vont être inspirées. Tout le Nouveau Testament va être rédigé. Mais ce qui m'a frappé ici, c'est que chaque fois, moi, que je regarde comment Jésus est obéissant dans sa relation avec son Père, je me dis, il y a quelque chose, tu sais, c'est quand même Dieu le Fils, Dieu le Père, il y a une intimité qui m'est pas permise, je ne peux pas rentrer à cet endroit-là précis, moi, je ne vais pas vivre cette relation-là avec le Père que Jésus vit. Il y a des choses que Jésus connaissait de Dieu que moi, je ne connaissais pas. Puis probablement que ça demeure vrai quand même, tu sais. Mais en même temps, Jésus est en train de dire ici, « Je vous ai appris tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors, au strict minimum, je dois comprendre de ce passage-là que tout ce que j'ai besoin de savoir comme connaissance pour vivre la vie chrétienne, pour marcher dans la vie chrétienne, pour ressembler à Jésus-Christ, ça m'a tout été transmis là-dedans. De tout temps, les hommes ont voulu avoir une connaissance spéciale. Je ne sais pas s'il y en a qui sont curieux, qui lisent sur les sectes, les mouvements, les philosophies. La gnose, la connaissance mystique qui t'est donnée dans une expérience quelconque. Et puis ça a été une hérésie, une fausse doctrine qui est sortie aussi dans les milieux chrétiens. Il y avait des gens qui pratiquaient des rites initiatiques où on allait chercher cette expérience où c'est bon, on a le texte, on a une révélation, on a des choses qui sont écrites, mais il y a une connaissance. Et des chrétiens ont embarqué là-dedans en disant, oui, mais quand Jésus était là dans la présence du Père, il y avait une connaissance, il y avait quelque chose qui était donné là, qui est inexplicable, qu'on ne peut pas définir, qu'on ne saurait décrire avec des mots. C'est une hérésie. C'est un mensonge. Parce que ce que Jésus nous dit ici, il dit, « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et il le leur a fait connaître en leur enseignant. Il n'est pas arrivé, puis il a mis une petite électrode dans leur cerveau, puis il a transmis une expérience mystique. Il leur a transmis des choses sur le Père. Et c'est pour ça que ce livre-là est saint. C'est pour ça que ce livre-là, c'est pas juste une patente à consulter, c'est parole de Dieu, parce qu'à travers ce livre-là, Christ avait fait connaître tout ce qu'il avait appris de son Père aux apôtres qui ont été conduits par l'Esprit-Saint pour que ce soit rédigé, que ce soit transmis. Et donc, à travers les évangiles, on accède à la vie de Jésus, à ses enseignements, mais à travers les épîtres, les lettres qui suivent, on continue encore. Puis Jésus nous dit que toutes les Écritures parlaient de lui. Toutes les Écritures parlaient de lui. Et donc, la parole de Dieu, la Bible, doit être au centre de ma vie. C'est un outil central dans ma vie si je veux bâtir un foyer qui va être centré sur l'Évangile de Jésus-Christ. parce qu'à l'intérieur de ce livre-là m'a été transmis, vous a été transmis, tout ce que Jésus a appris de son Père. Les apôtres n'ont pas gardé une couple de petits morceaux juste pour eux parce que c'était le cercle des initiés. Puis après ça, il fallait passer par un rite initiatique pour faire partie du cercle des initiés. Et l'œuvre de l'Esprit aujourd'hui dans nos vies, ce n'est pas de nous apporter de nouvelles révélations. L'œuvre de l'Esprit, c'est de venir illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on comprenne la révélation, afin qu'on soit conduit dans sa parole. Alors, je n'ai pas à chercher ailleurs, j'ai ici tout ce qui est nécessaire pour ma foi. Et en Église, à travers des cours, à travers des échanges, des rencontres, des discussions, un café avec un frère, avec une sœur, on va vers les Écritures. Puis bien sûr, on apprend ensemble à comprendre mieux la parole de Dieu. Mais tout est là. Vous voulez bâtir un foyer centré sur l'Évangile? Quelle place occupe la parole de Dieu dans votre vie? Ça doit être l'objet de votre méditation. Je le sais, je l'ai dit de manière assez... Des fois, je suis un peu baveux. Hein? Je sais, plusieurs d'entre vous, vous vous voyez comme des illettrés pratiques. Vous dites, je lis jamais. Tu sais. Mais je vous donne un passage comme Jean 15. Quelques versets. Simplement le lire, le relire, le méditer. Tu n'es pas obligé de te donner comme agenda de lire toute la Bible cette année nécessairement. Si tu lis peu, mais lis avec attention, médite, reste là dans le passage. Ah, mais j'aime pas beaucoup, beaucoup lire. OK, bien, mémorise. Mémorise Jean 15. Mémorise Jean 15. C'est une des premières choses que j'ai faites dans ma vie chrétienne. J'ai commencé à mémoriser des chapitres de la Bible. Je suis un nerd, je sais, là, mais c'est fort. Je vous dis, mémorisez Jean 15. Vous allez voir. C'est vraiment génial. La parole de Dieu et la prière. Un foyer qui est centré sur l'Évangile de Jésus-Christ, c'est un foyer qui est baigné dans la prière. Et c'est important ce que je veux dire ici. Jésus nous dit ici, il donne des promesses vraiment troublantes. Hein? Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors c'est implicite dans ça que je suis près du Seigneur. Je vais prendre un terme chrétien, il sanctifie mes prières, il ajuste mes requêtes et puis il vient, il répond. Et parfois sa réponse c'est non, c'est très clair aussi. Jésus lui-même, n'est-ce pas, quelques temps plus tard, « Père, éloigne de moi cette coupe lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémané. » Puis à la fin, c'est quoi? Que ta volonté soit faite, non la mienne. D'accord? Mais la réalité, c'est qu'un foyer qui est centré sur l'Évangile, c'est un foyer qui est baigné dans la prière. Ça n'existe pas des chrétiens qui prient peu et qui sont en santé. « Ah, moi, je ne suis pas un prieur. Ça, ce n'est pas pour moi, ça. » Je n'irai pas jusqu'au bout de ma pensée, je vais être trop dur avec vous, d'accord? Je comprends. C'est un manque de maturité. Et chaque fois que je manque de prière dans ma vie personnelle, je me dis pas, ah, moi je suis du type bouquin, tu sais, puis il y en a d'autres qui sont du type à genoux, puis il y en a d'autres qui sont du type service. Moi, le service, c'est pas quelque chose pour moi. Ça fait pas partie de mes dons être un serviteur, tu sais. Non, ça marche pas comme ça. Et donc, un foyer qui est centré sur l'Évangile, c'est un foyer qui est baigné dans la prière et qui voit Dieu répondre à la prière. Et là, je vais en challenger plusieurs d'entre vous parce que vous avez décroché de la prière, parce que vous dites, « Ouais, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. » Bon, premièrement, c'est pas un char que tu démarres, c'est une relation avec Dieu, d'accord? Fait qu'il faut que tu le laisses te répondre, faut que tu le laisses agir, faut que tu le laisses sanctifier tes prières. Mais ça marche, je peux vous le dire. Je vais vous donner une requête pratique que je fais souvent au Seigneur. Souvent, je vis des moments dans ma vie, tout ça, puis j'ai l'impression que ma vie chrétienne devient mécanique, OK? Puis pasteur, là, c'est comme 100% de piège là-dessus, là. Moi, il faut que je décortique, il faut que j'analyse, je lis des livres, ça peut tout devenir conceptuel. J'en parlais avec un des serviteurs en formation à l'église dernièrement, il dit, j'ai peur que ça devienne comme des concepts, toute cette affaire-là, puis que je perde de vue la relation. Alors, souvent, je vais dans la prière, puis je dis, Seigneur, j'ai besoin de te voir. Pas comme t'apparaît, tu sais, mais j'ai besoin de te voir agir. Parce que dans mon cœur, là, j'ai des doutes, je suis pris dans mes pratiques religieuses, je suis comme, c'est pas assez vrai, on dirait. J'ai besoin de te voir agir, que tu connais toutes mes requêtes. Ah ouais, exauce en une là, tu sais, où je veux te voir dans une providence divine, des circonstances. Wow, ça vient de Dieu, c'est trop. Juste me parler dans ta parole d'une manière spéciale matin. Ce matin, tu bouleverses mon cœur. Jamais, Dieu n'a pas répondu à cette requête-là. Je viens de mettre la barre haute, là. J'ai du monde qui vont me dire, Yannick, better be good, ton Dieu, mon homme, parce que moi, je décroche, sinon. On ira prendre un café ensemble. Jamais. Puis je vous le dis, je le fais vraiment souvent. Vraiment souvent. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis un incrédule. D'accord? Et donc, je fais ça souvent. Un foyer qui est centré sur l'Évangile, c'est un foyer qui est baigné dans la prière. Vous baignez vos enfants dans la prière. Vous baignez les conflits qui sont dans la maison dans la prière. Vous êtes là constamment. Vous amenez votre conjoint dans la prière. Constamment, vous êtes là. Et c'est un foyer où Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières de toutes sortes de manières, pas toujours comme on veut. Des fois, c'est « attends, longtemps ». Mais vous voyez Dieu agir, répondre à vos prières. Et si ça, ce n'est pas quelque chose qui est présent, adressez ça. Vous n'arriverez pas à vivre un foyer, à bâtir un foyer centré sur l'Évangile si ce n'est pas baigné dans la prière. Apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à vos enfants à confesser. Confessez vos péchés dans la prière devant vos enfants, devant votre épouse, devant votre époux. Faites-le. Un foyer qui est centré sur l'Évangile est baigné dans la prière et Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières de toutes sortes de manières, pas toujours comme on veut, mais je peux raconter l'histoire de ma vie de prière, de ma relation avec Dieu, comment Dieu répond aux prières dans ma vie. Et ce matin, là, on pourrait s'arrêter ici, on pourrait commencer à demander des témoignages. On en aurait facilement pour une heure ou deux à raconter des exaucements que vous avez vécus dans les dernières semaines, les derniers mois. Certains anodins, simples, un peu banals, d'autres extraordinaires. Et nos foyers ont besoin d'être baignés dans la prière. Enfin, c'est un foyer où le fruit principal, c'est l'amour. Le fruit principal dans ce foyer-là, c'est l'amour. L'autre verset qui m'a vraiment touché cette semaine pendant que j'étais en train d'étudier, le premier, c'est qu'il nous a tout appris ce que le Père lui avait appris. Puis le deuxième, c'est Jean 15, 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Ça m'a vraiment troublé. Puis je suis encore en train de méditer ça. C'est comme si, je pense que j'avais jamais réalisé qu'il disait ça. Parce que dans mon esprit, avec les années, à force d'étudier les Écritures, j'ai l'impression de saisir un peu à quel point Dieu le Père aime son Fils. J'ai l'impression de saisir un petit peu plus la Trinité, puis l'amour éternel qu'il y a là, et puis je comprends mieux cette douleur-là lorsque Christ s'écrit, puis il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est parce que de concert, ils avaient choisi qu'il allait y avoir ce sacrifice-là. Et là, de réaliser que Jésus est en train de me dire « Du même amour que mon Père m'a aimé. » Vous comprenez, c'est un amour parfait, c'est un amour infini, c'est un amour qui n'a pas besoin de plus parce qu'il est entier. De réaliser que Jésus me dit « Yannick, je t'ai aimé du même amour que mon Père m'a aimé. » Alors, si votre foyer va porter ce fruit-là qui est l'amour en abondance, ça va commencer dans cette réalisation régulière, cette méditation où vous prenez conscience que Christ vous a aimé comme le Père l'a aimé, que vous êtes parfaitement aimé, entièrement aimé, complètement aimé. Et lorsque Jésus est là sur la croix, il s'écrit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il ne dit pas « Père, tu ne m'as pas aimé. » Parce qu'il sait qu'il a été parfaitement aimé par son Père. Un foyer qui est centré sur l'Évangile de Jésus-Christ, c'est un foyer qui porte comme fruit principal l'amour. Ça va venir, ça va découler de la vérité, ça va découler de la parole de Dieu, mais le fruit principal, le plus évident, c'est l'amour. C'est notre plus gros défi, n'est-ce pas? C'est l'amour envers les membres de la famille qui ne sont pas aimables. Parce qu'on trouve dans l'Évangile, on trouve en Jésus-Christ la force pour aimer même nos ennemis. Tout de suite après, dans le passage, on aurait pu continuer à lire, il va parler de notre rapport au monde, notre rapport avec ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ben, je ne veux pas être condescendant, puis je ne pense pas que je le dirais comme ça à des gens proches autour de moi, mais en même temps, c'est ça. Le monde est souvent dans ton foyer. Si ton foyer n'est pas entièrement à Jésus-Christ, le monde est là dans ton foyer. Et donc, je trouve en Jésus-Christ l'amour nécessaire pour aimer le monde qui est dans ma maison, même s'il n'est pas chrétien, à plus forte raison pour aimer les chrétiens dans mon foyer, pour aimer les frères et sœurs qui, eux aussi, ont été aimés comme le Père les a aimés. Et donc, si je veux que mon foyer soit fondé sur l'Évangile, centré sur l'Évangile, je dois constamment être attentif à ce fruit-là, à ce qui est bien présent dans ma maison. Moi, je vous suggère l'idée suivante. Si votre foyer n'est pas un foyer où vous inspirez vous-même comme chrétien cet amour-là, probablement que vous avez perdu de vue l'amour de Christ pour vous. Vous vous êtes un peu éloigné du cep dans votre cœur et la sève de son amour ne coule pas à flot dans vos veines. Et vous avez besoin de retourner à cet endroit-là. Parce que lorsque je suis bouleversé par l'amour de Christ pour moi, lorsque je réalise la grandeur de son amour pour moi, ce que j'ai dans mon cœur en retour, c'est de l'amour. C'est ça que j'ai. Et je vais avoir de l'amour à donner. Et le fruit qui va découler de l'amour, d'accord? Centré sur une personne, Jésus, comment est-ce que ça se fait concrètement dans sa parole, dans la prière? Le fruit qui va être le plus évident, ça va être l'amour. Mais cet amour-là va produire quelque chose d'autre. Regardez avec moi, je termine avec ça. Verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Un foyer qui est centré sur l'Évangile, c'est un foyer qui est rempli de joie. Et si dans votre foyer, vous êtes la seule personne qui est chrétienne, il y a beaucoup de joie dans votre foyer. Et je sais que c'est un défi que je suis en train de vous lancer. Mais la réalité, c'est que lorsque je détache mes yeux des circonstances de ma maison pour me rappeler mon identité en Jésus-Christ. Je me rappelle que ma vie ne vient pas de ce qui se passe autour de moi, mais ma vie vient de Jésus-Christ. Je me rappelle que je suis attaché au cep. Je me rappelle que Jésus-Christ m'a aimé comme le Père m'a aimé. Et à ce moment-là, toutes les choses qui suscite des larmes, des frustrations, de la douleur dans ma maison, prennent une autre perspective. Parce qu'il y a des larmes. Je vais continuer à pleurer pour les gens dans ma famille, pour qui je prie, pour qu'ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Puis quand dans la maison, c'est la guerre, parce que des fois c'est la guerre, même lorsque l'amour est là, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le bon mood, n'est pas dans la bonne attitude. Il y a des larmes qui viennent avec ça. Et on a vu Jésus pleurer. Et on a vu Paul pleurer. On les voit, on voit cette souffrance-là. Mais paradoxalement, au milieu de tout ça, le chrétien tire toujours et trouve toujours une joie profonde lorsqu'il est bien attaché au cep, lorsque son cœur est là, parce que ma joie ne dépend pas de ma santé, des circonstances de ma vie, des obstacles dans ma vie. Mon identité n'est pas définie par mes succès ou mes échecs dans la société. Ma joie ne dépend pas de toutes les relations dans la maison. Premièrement, ma joie dépend de cet amour que Jésus-Christ a eu pour moi. Et quand je le vis, quand je le fais, à quelque part, j'arrive à transcender, à dépasser ces obstacles-là et je commence à aimer les gens autour de moi comme Christ m'a aimé. et je trouve une joie profonde. Peut-être à être la seule personne dans ma maison à le faire. Contre-culturel à l'os, contre-courant dans ma maison. Mais je trouve une joie profonde à aimer malgré le fait que la réponse ne vient pas. Et si dans votre maison, il y a deux ou trois chrétiens, l'esprit qui est en eux va répondre beaucoup plus spontanément si vous décidez de marcher. Alors, je reviens sur mon idée du départ. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je reviens sur mon idée du départ. Pour qu'un foyer soit centré sur l'Évangile, ça prend une seule personne dans cette maison-là. Une personne qui a pris une décision dans sa vie. Centrer sa vie personnelle sur une personne, Jésus-Christ. Ça prend une seule personne. Si dans votre maison, il y a d'autres chrétiens, ayez confiance en Dieu, croyez en Dieu. L'Esprit Saint qui les habite va répondre lorsque vous êtes en train de faire ça. Va parler à leur cœur. Si vous êtes seul, si vous dites « Oui, mais le monde est dans ma maison », à plus forte raison, l'Évangile, qui est une puissance de Dieu pour votre salut, pour vous donner la grâce, la force, en demeurant tout près de Jésus-Christ, dans sa parole et dans la prière, pour vivre cet amour-là et avoir une joie profonde qui demeure malgré les difficultés de la vie. Merci.